إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ceci est donc la deuxième assise parmi les assises du mois de Ramadan et qui a pour thème la prière de nuit durant ce mois. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala a certes légiféré à ses serviteurs des adorations de différentes sortes, et ce afin que l'on puisse se rapprocher de lui de façon diverse sans être pris de lassitude dans l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des adorations qui sont obligatoires et qu'il n'est pas permis de délaisser ni de négliger. Et il a légiféré d'autres adorations qui sont, elles, surérogatoires et qui permettent de compléter les précédentes et de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces adorations, il y a la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit 5 prières à ses serviteurs, 5 prières à accomplir quotidiennement et qui équivalent à 50 dans la balance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré en plus de ces 5 prières obligatoires, des prières surérogatoires qui viennent les compléter. Parmi celles-ci, il y a les rawatib, qui sont les prières surérogatoires liées aux prières obligatoires. 2 unités avant la prière d'El Fajr, 4 avant la prière du Dhuhr, et 2 après elle, 2 après la prière du Maghreb, et 2 après la prière d'El Isha. Quiconque accomplit ces 12 unités quotidiennement se verra construire une maison au paradis, comme il est venu dans le hadith. Et parmi ces prières surérogatoires, il y a la prière de nuit, celle dont les auteurs ont été loués par Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, quand il a dit en décrivant ses serviteurs pieux, « وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا » ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des prières après l'obligatoire est la prière de nuit. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahullahu ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, propagez le salam entre vous, offrez la nourriture, entretenez les liens de parenté, et priez la nuit lorsque les gens dorment, vous entrerez ainsi au paradis en paix. Vous entrerez ainsi au paradis en paix. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, ainsi que l'imam al-Hakim qui l'a authentifié. Nous allons donc voir dans cette assise différentes questions liées à la prière de nuit. La première question est de combien d'unités est composée la prière de nuit et quelles sont les manières de l'accomplir. Le witr fait partie de la prière de nuit et il est composé d'au minimum une unité et d'au maximum 11 unités de prière. Et il est possible de l'accomplir de différentes manières. En effet, il est possible d'accomplir le witr d'une seule unité, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque souhaite accomplir le witr d'une unité alors qu'il le fasse. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i rahimahum Allahu ta'ala. Et il est également possible de l'accomplir en 3 unités. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque souhaite accomplir le witr en 3 unités alors qu'il le fasse. Et ce hadith est également rapporté par les 2 imams Abu Daoud et An-Nasa'i rahimahum Allahu ta'ala. Et l'imam al-Tahawi, rahimahullah, rapporte que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a fait le witr en 3 unités qu'il a réunies en ne faisant les salutations qu'à la dernière unité. Ceci est donc Une des manières de faire le witr en trois unités, d'un seul coup, en ne faisant le tashahud et les salutations qu'à la dernière unité. Mais si tu souhaites faire deux unités et saluer, puis faire la troisième seule, cela est permis, d'après ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah, de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui priait ainsi. De la même manière, il est possible d'accomplir le witr en cinq unités, en ne faisant les salutations qu'à la dernière unité, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque souhaite accomplir le witr en cinq unités alors qu'il le fasse. Et le hadith est également rapporté par Abu Dawud et An-Nasa'i rahimahum Allahu ta'ala. Et Al-Bukhari et Muslim rapportent que Aisha radiallahu ta'ala anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit 13 unités et il faisait le witr en 5 sans s'asseoir si ce n'est à la dernière. Et il faisait le witr en 5 sans s'asseoir si ce n'est à la dernière, c'est-à-dire à la dernière unité. De la même manière, il est possible de faire le witr en 7 unités de prière. Et ce, d'après la parole d'Umm Salama radiyallahu ta'ala anha qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le witr en 7 ou 5 unités sans les séparer par une salutation ou une parole. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed ainsi qu'al-Nasa'i ibn Majah rahimahumullahu jami'a. Il est aussi possible de faire le witr en 9 unités, et ce de la manière suivante. Tu accomplis 8 unités de prière à la suite, et tu ne t'assois qu'à la 8e pour faire le tashahud. Puis tu te lèves sans faire les salutations, sans faire le taslim, et tu accomplis la 9e unité, puis tu te rassois, tu refais le tashahud, et à ce moment-là, tu accomplis les salutations finales. Et c'est cette façon de faire qui est rapporté par Ahmed et Muslim d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha. Enfin, il est possible d'accomplir le witr en 11 unités. Il est possible d'accomplir le witr en 11 unités de prière et ce de deux manières. La première qui est la plus connue, c'est le fait que tu accomplisses les unités de prière deux par deux puis que tu clôtures par une seule unité. Et c'est ce que rapporte Aïcha radiallahu ta'ala anha qui a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait entre la Aïcha et le Fajr 11 unités de prière. Il faisait les salutations toutes les deux unités et il clôturait par une unité. » La deuxième manière est que tu accomplisses 4 unités d'un coup. C'est que tu accomplisses 4 unités d'un seul coup en ne faisant le tashahud et le taslim, les salutations, qu'à la dernière unité. Puis tu refais 4 unités de la même manière, puis pour terminer, 3 unités de la même manière. Et ceci est aussi rapporté d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum allahu ta'ala. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Ceci sont donc les différentes manières d'accomplir le witr, d'accomplir la prière de nuit. Cependant, il convient à celui qui dirige la prière pour les gens de ne pas l'accomplir en 5, en 7 ou en 9 unités. Mais ceci convient seulement à celui qui prie seul ou pour un petit groupe de personnes qui souhaitent prier ainsi. Mais à la base, ce qui est préférable pour les imams dans les mosquées, c'est de saluer toutes les deux unités. Pourquoi ? Afin de ne pas rendre la prière difficile pour les gens. Et de plus, il n'est pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait accompli la prière de cette manière avec ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Mais il faisait cela lorsqu'il priait seul, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Quiconque parmi vous dirige la prière pour les gens alors qu'il soit concis, car il y a derrière lui la personne âgée, le faible et celui qui a des choses à faire. » Et dans une autre version, il a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Et s'il prie seul, alors qu'il prie comme il veut. » La deuxième question est quel est le mérite de la prière de nuit durant le mois de Ramadan? La prière de nuit durant le mois de Ramadan a un mérite particulier et elle se distingue de la prière de nuit en d'autres mois, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Quiconque accomplit la prière de nuit durant le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. » Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Vous voyez donc ici la récompense immense de cette prière durant le mois de Ramadan. Quiconque accomplit la prière de nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. Cependant, vous voyez également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis deux conditions pour se voir les péchés pardonnés. Il a dit tout d'abord avec foi, c'est-à-dire avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala et avec foi en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé comme récompense pour ceux qui accomplissent la prière de nuit. Ensuite, il a dit en espérant la récompense, c'est-à-dire que ce qui te pousse à faire cette prière et que tu recherches la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais pas cela par ostentation, tu ne fais pas cela par habitude ou pour faire comme les gens, tu ne fais pas cela par recherche des biens vils de ce bas monde ou par recherche de la notoriété, mais tu pries exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala en recherchant la récompense qu'il y a auprès de lui et qu'il a réservée pour ceux qui accomplissent cette prière. Il convient donc aux musulmans de donner de l'importance à cette prière de nuit et d'y être assidus en recherchant à obtenir la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois te dire et tu dois te rappeler que ce ne sont que quelques nuits qui vont passer très vite. Tu ne sais même pas si tu seras encore vivant le Ramadan prochain. Tu dois donc saisir cette occasion immense qui se présente à toi pour obtenir le pardon de tes péchés bi'idhnillahi ta'ala. Et ici une question se pose. Car il y a un problème qui touche de nombreuses mosquées en France, qui est le problème des horaires de prière. Il m'est parvenu que certaines mosquées accomplissent la prière d'Al-Aïcha, puis le Tarawih, avant même l'entrée légale du temps d'Al-Aïcha. Et il se peut que dans certaines mosquées, ils terminent même Tarawih avant l'entrée d'Al-Aïcha. Alors qu'est-ce que les musulmans doivent faire dans cette situation afin de ne pas négliger cette prière? Il est conseillé qu'ils se réunissent dans un endroit ou dans la demeure de l'un d'entre eux et qu'ils accomplissent en groupe la prière de l'Aïcha, puis la prière de Tarawih. Et celui parmi eux qui connaît le plus le Coran leur dirige la prière, même s'il doit pour cela s'aider du mushaf en lisant à partir de celui-ci, comme cela est rapporté de certains parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. En faisant cela, ils accompliront la prière en groupe en son temps et ils obtiendront le mérite de cette prière durant ce mois, incha'Allah ta'ala. La troisième question. Et qui est le premier à avoir accompli cette prière? Qui est la première personne à avoir accompli la prière de Tarawih? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier à avoir accompli la prière du Tarawih en groupe à la mosquée. Puis il l'a délaissée par peur qu'elle devienne obligatoire pour sa communauté. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, ont rapporté d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une nuit dans la mosquée et les gens ont prié avec lui. Il fit la même chose le lendemain et les gens étaient encore plus nombreux que la veille. Ils se sont ensuite réunis la troisième ou la quatrième nuit, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti à eux. Lorsqu'est venu le matin, il leur a alors dit « J'ai vu ce que vous avez fait ». Et rien ne m'a empêché de venir à vous, si ce n'est la crainte qu'elle devienne obligatoire pour vous. Et il a dit, et ce durant Ramadan, et ce durant Ramadan. On voit donc que la prière de Tarawih est une sunna confirmée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième question est de combien d'unités est composée cette prière? Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ont divergé concernant cette question. Concernant le nombre d'unités de la prière de nuit durant le mois de Ramadan. Parmi eux, certains ont dit qu'elle était composée de 41 unités. D'autres ont dit qu'elle est composée de 39 unités, d'autres de 29, d'autres de 23 unités, d'autres de 19 unités, de 13 ou de 11 unités. Et l'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala, et l'avis prépondérant, est qu'elle est de 11 ou de 13 unités. Et ce comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, lorsque Aïcha, radiallahu ta'ala anha, fut interrogée au sujet de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant Ramadan, elle répondit, il ne faisait pas plus de 11 unités durant Ramadan ou en dehors de celui-ci. Il ne faisait pas plus de 11 unités durant Ramadan ou en dehors de celui-ci. Et dans le hadith que l'on a mentionné précédemment, elle a dit, radiallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit 13 unités et faisait le witr en 5 sans s'asseoir si ce n'est à la dernière. Donc on voit donc dans ces deux hadiths que il est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a prié la nuit 11 unités ou 13 unités. Et les gens de science ont expliqué les hadiths dans lesquels sont mentionnées les 13 unités que les deux premières unités sont en réalité la ratiba liée à la prière de l'Aïcha. Wallahu ta'ala a'lam. Et l'imam Malik, rahimahullah, a rapporté d'après ça Ibn Yazid, rahimahullah, qu'il a dit, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a ordonné à Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari de prier pour les gens 11 unités. De prier pour les gens 11 unités. On voit donc que la sunna est que cette prière soit composée de 11 unités de prière. Et il faisait partie de leur habitude de prolonger longuement cette prière. Il faisait partie de leur habitude de prolonger longuement cette prière. En effet, Saïd ibn Yazid, rahimahullah ta'ala, a dit « Le lecteur récitait des centaines de versets, au point que nous nous maintenions à des bâtons à cause de la longueur de la station debout. » On voit donc que leur prière était différente de la prière de la majorité des gens aujourd'hui qui prient Tarawih à grande vitesse, sans aucune quiétude ni sérénité. Wallahu al-musta'an. La cinquième question est quelle est la récompense de celui qui accomplit cette prière entièrement avec l'imam? La récompense de celui qui accomplit cette prière entièrement avec l'imam est une récompense immense. En effet, il est rapporté d'Abi Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui inscrit la nuit complète en prière. » Il lui inscrit la nuit complète en prière. Et le hadith est authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers ce hadith que celui qui prie la prière de Tarawih entièrement avec l'imam, du début jusqu'à la fin, il lui est inscrit la récompense de la nuit complète en prière, comme s'il avait prié de l'Aïcha jusqu'au Fajr sans interruption. Et ceci est une récompense immense. Et à travers cela, on voit l'erreur de nombreuses personnes qui accomplissent quelques unités avec l'imam puis s'en vont. Ils accomplissent 2 unités, 4 unités, puis sortent de la mosquée. Et ceci est une erreur. D'autres s'en vont au moment du witr, sous prétexte qu'ils souhaitent continuer de prier chez eux. Et ceci est une erreur, car ils se privent ainsi de la récompense mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. On compte également parmi les erreurs ce que font certaines personnes qui restent assises dans les rangs sans prier, puis se lèvent au moment de l'inclinaison en s'insérant rapidement avec l'imam. En faisant cela, ils se privent de la récompense mentionnée dans le hadith, car ils n'ont pas prié entièrement avec l'imam, mais ils ont manqué une partie de la prière durant le moment où ils restaient assis. En plus de cela, ils coupent les rangs durant la prière, car ils sont assis au milieu sans prier. Et le pire pour eux est qu'il est à craindre que leur prière ne soit pas valide, car ils ont délaissé 2 piliers de la prière, qui sont la station debout, ainsi que la récitation de la Fatiha, et ce sans aucune excuse. Wallahu al-musta'an. Et remédier à cela est simple. Si tu es fatigué lors de la prière de nuit et que tu souhaites rester assis, sache alors qu'il est permis pour toi de prier assis. Sache alors qu'il est permis pour toi de prier assis. En effet, il est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il accomplissait parfois la prière de nuit en étant assis. Alors, il t'est permis de t'asseoir, de faire le takbir, de t'asseoir dans le rang et de prier avec l'imam en étant assis. Puis lorsque tu n'es plus fatigué, alors tu peux te lever et continuer ta prière debout, incha'Allah ta'ala. La 6e question, est-il permis aux femmes d'assister à la prière à la mosquée? La réponse est qu'il est permis aux femmes d'assister à cette prière dans les mosquées. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah. N'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah. » Cependant, il est exigé qu'elles soient à l'abri de la tentation et qu'elles ne soient pas une source de tentation. Et pour ce faire, il est obligatoire pour elles de sortir couvertes et voilées. Elles ne doivent pas s'exhiber, elles ne doivent pas se parfumer, ni hausser la voix, et elles ne doivent pas laisser apparaître leurs atours. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا » et qu'elles ne montrent de leurs atours que ce qui en paraît. C'est-à-dire ce qui n'est pas possible de couvrir ni de cacher, comme le djilbab, la abaya et autres choses semblables. Et la sunna pour les femmes est de se tenir à l'écart des hommes et de s'éloigner d'eux et de commencer les rangs par le dernier, à l'inverse des hommes, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des rangs pour les hommes est le premier et le pire est le dernier. Et le meilleur des rangs pour les femmes est le dernier et le pire est le premier. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et il est recommandé pour les femmes de quitter la mosquée immédiatement après les salutations de l'imam lors de la dernière unité de prière. Et elles ne doivent pas tarder à la mosquée Sans excuse. En effet, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte d'après Salama, radiyallahu ta'ala anha, qu'elle a dit, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait les salutations, les femmes se levaient dès qu'il terminait les salutations, et il, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, restait un petit moment à sa place avant de se lever. Allant ensuite dire, radiyallahu ta'ala anha, Allah est plus savant, mais nous pensons qu'il faisait cela afin que les femmes partent, avant que les hommes les rencontrent. Vous voyez donc à travers cela le comportement éminent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses compagnons hommes et femmes qui mettaient tout en œuvre pour se mettre à l'abri de la tentation, et ce même dans les mosquées. Aujourd'hui, on voit que les gens ne prêtent plus attention à cela. Dès que la prière se termine, les hommes s'empressent de se lever pour aller discuter devant la porte de la mosquée, au pire encore, peut-être même sur le chemin des femmes, en leur nuisant ainsi, et c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on implore l'aide. Ceci était donc quelques points liés à la prière de nuit durant le mois de Ramadan, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous la prière durant ce mois et de rendre nos œuvres exclusivement vouées à son noble visage. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayra.